Crésus. Crésus, la radio qui vous aide.
Vous êtes toujours sur Radio Crésus et nous enchaînons avec Patrick Kochersberger, délégué de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, l'UDES, et président d'un centre de soins infirmiers, administrateur également d'Alsace Active. Bonjour Patrick.
Bonjour mon cher Régis. Tous les ans on se retrouve là.
Et voilà, on dirait que c'est effectivement une tradition et c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons à Radio Crésus. Alors c'est vrai que la thématique du moment, est-ce que l'économie sociale et solidaire permet aux entreprises de mieux résister face à la défaillance? Et la question que je vous pose, c'est, de votre expérience, est-ce que le monde de l'ESS est-il plus sécurisant pour l'entreprise?
Plus sécurisant, je dirais moralement d'une certaine façon, parce qu'au fond, quelque part, aucun dirigeant chez nous n'a le moindre souci de savoir si effectivement il va gagner beaucoup d'argent, il n'en gagnera jamais. Donc ça le rassure d'emblée. Le problème le plus ennuyeux, c'est que nous parlons d'un sujet qui sont les entreprises en difficulté. Le consultant de plus de 30 ans que je suis, qui a aussi bien travaillé dans le secteur lucratif que non lucratif, mais également l'administrateur d'Alsace Active, constate effectivement que les choses ne sont pas aussi simples et aussi belles que ça. Parce qu'au fond, quelque part, quel que soit le secteur, vous verrez, il y a effectivement des secteurs où les choses se passent à peu près bien, mais vous en avez d'autres qui sont en situation catastrophique. Moi, vous m'indiquiez ma présence dans le secteur notamment de l'aide à domicile, l'accompagnement, le soin aux personnes à domicile.
Oui.
Ça, c'est une grande différence par rapport au service à la personne, secteur lucratif et de confort. Là, il s'agit effectivement de délégation de services publics, il s'agit de l'aide sociale à l'enfance, il s'agit de problématiques extrêmement complexes qui nécessitent des personnels hautement qualifiés.
Alors Patrick, c'est important de le dire, l'économie sociale et solidaire est très vaste. Et on retrouve dans l'économie sociale des acteurs très variés, aussi bien des banques mutualistes, coopératives, que des mutuelles, que des associations, que même des entreprises qui ont obtenu l'agrément entreprise solidaire. Donc on voit qu'effectivement, il peut y avoir une variété d'actions et d'activités économiques. Et vous avez raison de le dire, il y a effectivement des disparités aussi dans la manière dont ces activités sont menées et aussi sur l'impact qu'elles peuvent subir. Et on le verra notamment à travers des dispositifs d'aide aux entreprises qui peuvent avoir des effets délétères quelquefois.
Oui, parce que un des points que vous soulevez très discrètement, mais qui reste quand même un point très central, c'est aussi l'interrogation de l'utilité sociale de certaines de ces structures. Certaines ont très clairement, et je citais par exemple le sanitaire et le médico-social et le social, selon les secteurs, ont évidemment une importance très très grande et jouent un rôle extrêmement important d'agents pacificateurs de notre vie collective ou d'apport de prestations pour les populations les plus vulnérables. Oui. Donc la paix sociale est en jeu quand on réfléchit sur ces questions et ces structures sont souvent aujourd'hui en grande difficulté. Parce qu'au fond, quelque part, d'abord elles sont historiques. Pour beaucoup d'entre elles, moi je préside une association par exemple qui a 70 ans d'âge cette année, le centre de soins date de 1975, c'est un ancien dispensaire qui a muté, donc c'est plutôt ma grand-mère que ça concerne quand on passe, mais c'était le soin de proximité on parlait, donc nous avons cette historicité et un défaut majeur, c'est notre discrétion absolue, donc nous vivons grandement caché, parce qu'au fond, quelque part, moi, j'ai pas de bilan, globalement, à transmettre à la population, de savoir que mon association, dans le Haut-Rhin, s'occupe à peu près de 450 familles par an, dont 150 nouvelles, qui sont des familles en très grande difficulté, avec des enfants, avec des problématiques complexes, diversifiées, pour lesquels vous avez des exigences de diplôme pour les salariés, les normes, c'est-à-dire la certification, par exemple, AFNOR, qualité que nous avons, mais également les problèmes de financement. Des départements en situation de compression budgétaire nous mettent aujourd'hui dans des situations extrêmement délicates.
Alors, est-ce que vous avez été touché effectivement par cette réduction budgétaire, finalement, qui a touché beaucoup le monde de l'économie sociale et solidaire, notamment les associations. Crésus n'est pas épargné non plus par ces baisses de subventions. Et alors, comment faire face finalement face à ces décisions?
Oui, mais alors déjà je vais corriger une toute petite chose. Je touche pas un cent de subvention.
Oui.
je suis payé en T2A, hein, donc un paiement à l'acte.
Oui, T2A, c'est...
C'est traitement à l'acte, si vous voulez.
Oui, c'est ça.
Et donc, nous sommes payés uniquement quand nous travaillons.
D'accord. Hein.
Donc, par exemple, la caisse d'allocation familiale, le conseil départemental, nous délègue en délégation de service public
oui.
des familles, hein, des situations, ce qu'on appelle des situations, et nous rémunère pour ce travail accompli. Ça peut durer des semaines, ça peut durer des mois, c'est des contrats extrêmement importants et très délicats avec des sujets graves à traiter dans ces familles. Et donc, nous ne sommes payés que qu'à travers, effectivement, l'activité que nous menons au sein de ces familles, en rendant compte, en participant effectivement à un panel d'intervenants qui s'ouvre aussi bien aux travailleurs sociaux du conseil départemental ou de la CAF, mais également aux juges.
Mmh.
Nous avons, nous, par exemple dans notre association, 80% d'activité qui est décidée par ordonnance par le juge, donc qui nous envoie dès le lendemain matin dans une famille, dans des... Je dirais des complications maximum en matière d'organisation. Donc il faut voir ça, c'est la subvention n'est pas un propos chez nous.
Tout à
c'est,
fait.
C'est véritablement une activité entrepreneuriale qui est strictement appuyée sur l'activité que nous menons.
Derrière
ça, j'ai les mêmes problèmes que n'importe quelle entreprise. Est-ce que ce que je produis est payé au prix et me permet d'atteindre ce qu'on appelle le point mort ?
Mmh.
Ben, actuellement, on n'y est pas.
D'accord.
Alors, quand j'entends des gens me parler de fonds propres, de fonds de roulement, etc., de faire des bénéfices, nous on gère plutôt des indus, on gère des déficits, on gère des problèmes de ce genre-là. Et je dirais sur le plan national, pour répondre clairement à votre question, Régis, mm-hmm. Nous sommes, par exemple, dans ma fédération ADESA à domicile, dans des départements, par exemple, où les départements ne financent plus, les associations étaient fermées. Les activités n'existent plus.
D'accord.
Les personnels à la rue. Et donc, on est dans des contrastes incroyables, parce qu'au fond, quelque part, les départements disent eh « ben écoutez, on n'a pas le droit de faire des prêts, on n'a pas le droit de chercher de l'argent sur les marchés financiers, donc on fait une sélection d'activités pour lesquelles on ne financera plus. » Et ça devient absolument dramatique, parce qu'au fond, quelque part, chez nous, Monsieur Plus passe en permanence en nous demandant constamment, en nous bousculant « mais il faut faire plus !» Puis quand tu dis mais Monsieur Plus, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous financez ça ?
Oui.
Bah vous attendez longtemps les réponses.
Parce que la question qui se pose à un moment donné dans le travail social, c'est mesurer l'impact social qu'a le travail qui est mené. Alors c'est très compliqué. Hein, quels sont les critères qui vont être utilisés ? Quels sont les éléments qui seront pris en compte ? On voit que ça prend du temps. Vous le disiez, ça demande forcément de l'argent parce qu'à un moment donné, il faut mobiliser des personnes. Et à un moment donné, si on n'arrive pas à restituer cet impact social, qu'est-ce qui va se passer derrière ? Est-ce qu'on va arrêter de financer ? Est-ce qu'on va dire, ben, finalement, vous ne rendez pas compte ? Et donc, où est-ce qu'on va ? On va se dire, ben, finalement, vous avez un impact. On n'arrive pas à l'évaluer, mais il est certain parce que, globalement, au sein du territoire, on voit que ça se tient.
Moi, je vous dirais qu'on rend compte, parce que n'imaginez surtout pas que le trésorier payeur général va verser sur nos comptes de l'argent pour lequel nous ne rendons pas compte. Nous rendons compte
Bien
pour
sûr.
Toute notre activité, y compris celle que vous soulevez qui est très complexe, c'est l'évaluation de l'impact de ces activités sur les populations, hein, et la façon dont l'ordonnateur et le financeur nous le demandent. Ça peut être le juge hein, qui nous demande ça aussi, en disant quels sont les résultats que vous avez obtenus. Parce que, ouais, par exemple, pour nous, une des ambitions que nous avons dans beaucoup d'associations de ce secteur, c'est d'éviter par exemple le placement des enfants, qui
oui.
coûte alors chaque fois un bras, hein, pour tout vous dire. Hein.
Oui.
C'est des choses, d'ailleurs sur le plan moral, je discute même pas de ça, parce que c'est inacceptable de voir des parents défaillants pour lesquels on est obligé de placer les enfants parce qu'ils sont, je dirais, en situation de difficulté pour pouvoir élever leurs enfants. Ensuite, la collectivité, et pour la collectivité, ce sont des sommes pharaoniques, hein, et avec un problème majeur, c'est que actuellement, nous n'avons plus suffisamment de places ni de familles d'accueil qui sont capables, par exemple, d'accueillir ces enfants.
Alors Patrick, vous nous dites là, en gros, que la solidarité a atteint quelque part ses limites.
Ah, complètement. Nous sommes aujourd'hui, je vais immédiatement le dire aussi parce que c'est très intéressant. Hein. Écoutez, simplement pour vous dire, c'est pas, moi par exemple, sur un budget de 100 de mon association, 95% c'est le budget salaire et charges. D'accord ?
Oui.
Donc, je vous préviens tout de suite, on a connu pendant 8 années successives, tout simplement, le blocus complet sur la grille indiciaire des salaires du secteur, en rappelant d'ailleurs entre parenthèses que les deux niveaux les plus bas étaient immergés sous le SMIC, nous obligeaient effectivement à faire des correctifs que nous n'avions même pas le droit de faire. C'est assez formidable. Quand il y a eu l'année dernière l'augmentation, c'était une augmentation de 1%, dont en fait, en réalité, sur la fiche de paye, ça faisait 0,24% qui apparaissait sur la fiche de paye. J'aime tant vous dire qu'en termes de management, c'est absolument génial pour le personnel. Hein. Il faut vraiment qu'il soit super motivé pour rester chez nous. Quoi,
alors,
hein.
Et pourtant, il y a des besoins. Il y a des besoins en personnes compétentes, qualifiées. Aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à trouver les personnes pour assurer l'ensemble de vos missions?
Ben, je vais répondre simplement, puisqu'on parlait éventuellement de dire un petit mot amical à la région. Non, nous sommes dans une région où nous avons deux grandes difficultés majeures. Ça fait 8 ans, par exemple, que nous n'avons pas, sur le marché du travail alsacien, de technicien d'intervention sociale et familiale, qui est un diplôme essentiel, puisqu'un diplôme d'État obligatoire chez nous, qui n'existe pas. Mmh. C'est la pire des difficultés qu'on puisse avoir, on n'en a pas. Mais alors, j'ai surtout découvert dans la grande rencontre Biest, là, récemment avec les institutionnels, qu'on avait un problème majeur dans notre région, c'est que l'essentiel de nos diplômes était en dessous de la ligne de flottaison, était beaucoup trop bas.
Ça, c'est embarrassant.
Ah, c'est très embarrassant. Et effectivement, ça, je suis victime d'une certaine façon, en tant que président de mes structures, un petit peu de cet élément, parce qu'au fond, quelque part, c'est vrai que, on ne se rend pas compte, le monde du travail est en train de muter, y compris chez nous. Vous n'éviterez pas aujourd'hui l'utilisation des tablettes, des portables. Nous, on peut plus se permettre le matin de voir un salarié qui arrive à l'association quand on couvre la moitié d'un département et puis qui repart après dans une famille. On aura perdu une heure ou voire plus. En fait, il faut des transmissions du dématérialisé. Il faut effectivement avoir un travail qui est un travail où le compte rendu arrive immédiatement là où il faut, hein, et où le personnel est flexible, etc. Et ça, c'est pas la tradition, c'est pas la culture de l'action sociale telle qu'on la connaît dans son histoire. On a muté, je dirais, du généreux, oui. de la proximité de la personne en une technicité aujourd'hui qui est exigée par ceux qui ordonnent et qui financent.
Oui, au risque de perdre aussi ce côté humaniste dans l'accompagnement.
Merci de poser cette question, mais je crois que c'est le souci de tous les dirigeants aujourd'hui, quand ils sont, comme moi, je dirais, des militants traditionnels qui ont décidé de continuer à perpétuer cette tradition de l'aide aux familles, par exemple, de dire tout simplement que non, on peut pas perdre notre humanité parce qu'au fond, quelque part, c'est bien là où, par exemple, la faille du lucratif essaie de s'inscrire, parce qu'au fond, il faut pas oublier, entre notre expérience, hein, entre notre savoir-faire, entre, je dirais, cette dimension humaniste qu'ont un certain nombre de dirigeants et de salariés, on fait largement la différence et on est nettement meilleur par rapport, par exemple, au secteur marchand qui essaie de s'implanter. Et je dirais radicalement quelque chose, hein, quand même, et que ce soit bien entendu, je resterai toujours une personne opposée à utiliser l'argent des cotisants, de l'ensemble des personnes contribuables et autres financeurs, pour être utilisé à verser des dividendes, mmh, dans le cadre d'entreprises marchandes. Je me refuse à cette idée parce que je pense que l'action sociale, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est protégée en partie par la réglementation européenne comme étant particulière et à préserver de cette façon-là, il faut absolument qu'on rediscute avec l'ensemble de nos partenaires à réfléchir sur la prospective d'avenir des métiers, aux exigences et aux demandes, parce qu'on n'est pas très bon aujourd'hui en évaluation de nos métiers, on n'est pas bon en
réflexion,
en benchmarking, ouais, comme, ouais, on dit aujourd'hui, on n'est pas bon là-dessus, ouais, on a toujours les mêmes antièmes, on est l'économie sociale, on est démocratique, mm-hmm, on est ceci, on est les cela, ça suffit plus. Aujourd'hui, oui, il faut que nous posions les nouveaux termes de notre présence dans ces différentes activités. Certains métiers le font bien, vous avez des exemples qui sont donnés. Dans les AMAP, aujourd'hui, les agriculteurs ont décidé de prendre leur destinée en main, oui, et d'utiliser la proximité avec toute la responsabilité que ça comporte. Ils sont en face de leurs clients.
Et oui. Donc,
très bien. Hein. Ben, nous, on n'a pas bien réfléchi encore dans certains secteurs. L'action sociale est trop historique, trop tenue par des conventions collectives de branches, mais c'est des sapins de Noël permanents, quoi. Oui. Il faut qu'on révise tout ça parce qu'on peut pas continuer. Il faut que la méthode de travail change parce que le métier est très difficile et très lourd.
Est-ce que vous ne craignez pas que finalement, en essayant de trouver les moyens et les outils pour permettre la pérennisation et éviter la défaillance de l'entreprise, on sacrifie quelque part les valeurs de l'ESS?
Non, mais il ne faut pas faire un rapprochement de la sorte. Les valeurs de l'ESS sont une plus-value réelle des entreprises de l'ESS. Donc, on n'a aucune raison. Je ne vois pas quel est l'élément. C'est-à-dire, ce qu'il faut surtout faire, c'est apprendre à les valoriser, apprendre à mieux s'en servir, apprendre à leur donner une actualité réelle dans un monde qui change. Parce que ce n'est pas la peine non plus de se créer des grottes là, dans lesquelles on va se réfugier en pensant que ça va empêcher le monde de tourner. Ça, c'est une plaisanterie. Hein, donc là, je dirais que je reste le vieux consultant que je suis et je dis fermement, il faut pas avoir peur de l'avenir. L'avenir est pour nous, et pour nous dans l'ESS.
Oui, ça c'est, je crois que c'est important et c'est aussi une idée qu'on défend à Crésus, c'est l'avenir, c'est nous qui le construisons finalement.
Bah écoutez, regardez le nombre de projets, regardez le nombre d'idées, regardez le nombre d'innovations. Le problème, c'est, je le répète, et je le répéterai autant de fois qu'il le faudra, c'est notre capacité à les vendre, c'est notre capacité à convaincre le politique que nous sommes vraiment ces gens que nous disons être, mais que nous le disons pas assez fort, et nous le disons pas aux endroits où il faut le dire.
Eh bien, c'est l'occasion de le dire sur Radio Crésus. Une question, Patrick. Les acteurs de l'ESS jouent-ils le jeu de la solidarité entre eux lorsqu'il y a une difficulté?
Ça dépend, mais pas toujours. Des fois, je suis cruel, et puis c'est vrai que je dis, je crois des fois qu'au MEDEF ou à la CGPME, les entrepreneurs sont beaucoup plus solidaires entre eux qu'on l'est au niveau de l'ESS. C'est un peu brutal ce que je dis, mais c'est en partie vrai, parce que au fond, quelque part, moi je dis simplement, mon seul concurrent que j'ai aujourd'hui, par rapport au type de travail que je fais, sont des gens de l'ESS.
Oui.
Mais c'est pas des concurrents émulateurs qui permettent, etc. C'est plutôt des gens qui sont effectivement très éloignés. On est très éloignés les uns des autres. On n'arrive pas à se rapprocher. On n'arrive pas effectivement à créer, je dirais, ces consensus. On le voit bien. On a mis 15 ans pour créer l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale, pour essayer d'être à peu près entendu dans une fonction employeur qui est absolument essentielle. Les employeurs de l'économie sociale sont des gens qui ont une importance capitale parce que c'est eux qui vont discuter avec les syndicats, c'est eux qui vont discuter avec le politique pour pouvoir apporter, je dirais, l'acceptance que 11 à 12% de ce qui est travaillé en France soit représenté dignement et de façon intelligente. Donc on se rend compte, on est quand même en 2016 et on a mis, avec mes amis de l'ex-USGRS, on a mis 15 ans pour arriver là où nous sommes aujourd'hui et je pense qu'on n'est pas encore arrivé au bout, quoi.
D'accord. Alors, si vous aviez en conclusion... une réponse à donner à la question l'ESS au secours des entreprises en défaillance, mythe ou réalité?
Disons qu'il y a des gens qui font bien leur boulot. Par exemple, dans les coopératives, la reprise par les salariés est une excellente formule.
On en parlera dans un instant.
Ouais, parlez-en surtout, parce que effectivement, c'est les salariés qu'il faut convaincre. Parce que en fait, c'est souvent une difficulté que beaucoup de gens semblent ignorer, c'est que prendre des responsabilités de dirigeant quand vous étiez salarié.
C'est pas une mince affaire.
C'est pas une mince affaire.
Hein, je crois qu'à Crésus, on est bien placé pour le savoir, justement pour accueillir des personnes qui se retrouvent en défaillance et pour avoir appliqué effectivement un modèle entrepreneurial alors qu'elles étaient salariées avant. Et on voit toute la complexité de l'affaire. Il ne s'agit pas simplement de mobiliser une force de travail, mais il y a aussi tout un travail d'organisation, de connaissances à avoir de l'entreprise et de la manière de la mener. Et ça, je crois qu'avec Monsieur Kneul et Shervin Rahimian, on en parle pour éclairer sur ces difficultés-là qui peuvent surgir.
Il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas craindre, je dirais, d'une certaine manière. Par exemple, une structure qui, effectivement, du fait de ses carences en matière de financement, qui se retrouve dans une position, par exemple, de redressement judiciaire, c'est pas un problème. Il faut aussi, par exemple, faire confiance à des gens qui sont capables, effectivement, de faire une analyse d'une situation, de donner un espace de respiration à une structure, plutôt que de vouloir fermer très très vite. Il est souvent très utile de prendre des professionnels pour leur demander, effectivement, de les accompagner. C'est en partie une partie de mon métier aussi, de dire, bon, ben voilà, les difficultés, faut les dépasser. Quelles sont les solutions? Et effectivement, ce qu'il faut tenter de faire par toutes les voir, c'est souvent rechercher une pérennisation et profiter dans cette opportunité de faire ces changements dont je parlais tout à l'heure.
Oui, il faut aussi le rappeler, c'est que le droit de l'entreprise en difficulté a bien évolué depuis son origine, depuis le Code du commerce de 1807. Et je crois qu'aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est plus la faillite, mais c'est vraiment le droit de l'entreprise en difficulté. Donc la philosophie même a changé profondément. On cherche à sauver l'entreprise, même si concrètement on se rend compte que dans 70% des cas c'est la liquidation qui arrive, mais il faut bien penser au redressement et aux sauvegardes qui représentent les 30% restants.
Oui, je dirais objectivement, je vois les professionnels, leur idée première, c'est de ne jamais parler d'emblée de liquidation, c'est d'abord d'analyser la situation et de mettre la structure en situation de sauvegarde. La vraie question, c'est souvent le délai dans lequel s'instruisent ce genre d'affaires et aussi, je dirais, le retard avec lequel elles démarrent. Hein, des fois, il est tard, quoi. Ça me fait toujours penser qu'on est un petit peu toujours dans des situations comme peuvent l'être les urgentistes dans les hôpitaux. On n'arrive souvent pas là où il aurait fallu arriver. C'est-à-dire, au fond, quelque part, c'est un mot qu'il faudrait peut-être aussi utiliser que vous n'entendrez pas souvent, probablement, de vos interlocuteurs autour de ces micros. C'est la prévention. Hein. Moi, je pense que dans l'action sociale, dans ce que nous faisons dans beaucoup de secteurs, il faut que nous parlions beaucoup plus que nous sommes des préventeurs. Hein. Et en tout, que ce soit dans l'action sociale elle-même, dans le sport, dans la culture, etc., ne jamais oublier que cette fonction est une fonction centrale. Et là, encore une fois, on ne sait pas la vendre. On ne sait pas la vendre. Hein, et oui. C'est insupportable parce que nous avons aussi en face de nous beaucoup d'élus, par exemple, qui veulent du résultat immédiat, hein, du résultat visible. Moi, je pense que l'utilité sociale et la capacité d'être préventeur nécessitent de laisser du temps, une respiration. C'est un travail qui se prouve à moyen et long terme. Hein, et beaucoup de nos associations aujourd'hui négligent ce volet de prévention, hein, qui est un acte fort de nos, je dirais, de nos statuts, de nos fondements, de notre existence. Quand je parlais tout à l'heure, hein, des anciens dispensaires, mais aujourd'hui du magnifique projet là qu'on est en train de développer sur Strasbourg, sur ce secteur-là, on revient toujours aux cases avec un élément à la clé, s'approcher des gens au plus près, aider les familles, les enfants, etc., pour justement à travers la formation, mais également les actes de soins de prévention, accessible, sans aucune difficulté. Et oui. Ça, c'est le vrai rôle, parce qu'au fond, quelque part, le résultat, on le verra dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est-à-dire le diabète, l'obésité, tous ces problèmes qui aujourd'hui, les utilisations de drogue ou de médicaments, etc., l'alcool. Quand on fait ce travail de prévention, on n'a pas des résultats visibles à la seconde.
Hein? C'est du travail de longue haleine.
C'est du travail de longue haleine. Et il faut que nous, on reprenne ces arguments, qui sont ces arguments que je disais de benchmarking et de validation et de recommandation pour dire que nous sommes uniques en la matière, puisque c'est nous qui sommes depuis très longtemps capables de gérer, d'apporter des réponses et d'innover aussi sur ces questions.
Patrick Hochberg, il faudra effectivement améliorer la communication, trouver la manière de mettre en valeur tout ce travail qui est mené, travail de fond, et qui se fait vraiment sur la durée. Je crois que vraiment que votre engagement, et vos coups de gueule aussi, parce que vous êtes, je pense, à travers votre expérience aussi, un peu excédé quelquefois par certaines situations, hein, et je crois que ça apporte beaucoup à nos auditeurs aujourd'hui de comprendre que dans l'ESS, effectivement, on voit bien que l'ESS, c'est pas un remède à tout, que l'ESS, c'est bien sûr des valeurs qu'il faut défendre et pour lesquels il faut se battre à chaque instant.
Oui, mais on se bat, Régis, avec des citoyens éclairés. Ça aussi, c'est notre rôle, il faut pas oublier. Les gens qui s'engagent dans l'ESS sont des gens qui ont réfléchi à quelque chose qui est le partage avec les autres, qui est le fait de l'intérêt général qui prime sur à peu près tout. Et donc, c'est aussi ça qu'il faut remettre en perspective dans une époque où les ruptures des solidarités sont monstrueuses. Hein. Et moi, je dis, justement, par rapport à la famille, la petite enfance, le soin, etc., ce sont vraiment des secteurs où je me rends compte qu'il y a lieu de se réveiller. Hein. Il faut qu'on s'agite furieusement pour essayer de ne pas sombrer davantage sur ces questions. Elles sont indispensables, ces associations qui œuvrent dans ces secteurs pour pouvoir prévenir ces glissements qui sont inadmissibles. Des gens, une vieille dame que vous retrouvez 3 mois plus tard au fond de son appartement morte sans que personne ne se soit soucié, c'est insupportable. Voir des gens qui n'accèdent plus aux soins, hein, regardez les problèmes des soins dentaires, etc. Hein, c'est insupportable.
Oui, et il est clair que notre société aujourd'hui creuse de plus en plus les écarts. Hein, on le constate à travers entre les plus riches et les plus pauvres, et que la ligne effectivement se creuse, je dirais pratiquement de jour en jour. Mmh. Alors soyons préventeurs, comme vous l'avez dit. Hein.
Oui.
Voilà, soyons préventeurs.
Je préviens de quelque chose.
Voilà.
Je dis à nos politiques, ne laissez pas la financiarisation nous polluer toute notre vie. Ça, c'est le premier point, parce que l'argent, il en faut, c'est une évidence. Le problème, c'est de bien le gérer.
Voilà.
Hein. Ah bah, mais, ça. Mais je ne sais pas si je.
On terminera sur ce point-là.
Oui. Parce que moi, je pense qu'il faut absolument rendre attentif tout le monde. L'argent n'est pas tout. C'est un moyen. Et il faut s'en servir comme un moyen. Et aujourd'hui, la financiarisation et certaines, je dirais, de nos situations disparaissent derrière des problèmes qui sont strictement économiques, sans qu'on prenne en compte l'incidence à court et moyen terme.
Oui, mais sur l'argent, on peut très bien dire que, effectivement, l'argent n'est pas important, mais il est important d'en avoir. Et c'est là tout le problème aujourd'hui.
Merci, Régis. Soyez entendu, mon ami.
En tout cas, Patrick, merci infiniment pour votre témoignage et surtout votre expérience qui nous éclaire véritablement sur la question. On comprend bien qu'aujourd'hui, l'ESS n'est pas un remède à tout, qu'il faut être vigilant, il faut se battre, il faut défendre ses valeurs et que le mythe ou la réalité, on voit que la réalité est bien plus dure. Et que effectivement, l'ESS, c'est avant tout un mode de vie, je dirais, une manière de vivre qu'il faut défendre à chaque instant. Merci infiniment, Patrick. Vous êtes sur Radio Crésus et nous enchaînons avec nos experts dans un instant.
Crésus, la radio qui vous aide.